Et quelques jours de cela, ma sœur m'a téléphoné pour me demander de l'aider. Elle est en pleine recherche d'elle-même, elle est jeune, elle a 21 ans, et elle se demande qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie. Et elle a essayé plusieurs études, et elle n'a pas encore trouvé quel était le but de sa vie. Donc elle m'a appelé, elle m'a dit « Clément, est-ce que tu ne pourrais pas regarder quelques instituts bibliques, parce que j'aimerais me former, apprendre à lire ma Bible, apprendre un peu plus sur Dieu. » Et je lui ai dit « Pas de problème, je te réponds dans la soirée. » Et cette journée-là, j'étais en bonne compagnie, j'étais avec Chloé, et on a passé de très bons moments. On a été au restaurant, un restaurant chinois qui sert des plats succulents, de la région de Chongqing, et quand ils ont mis ce plat de poulet sur la table, c'était du poulet vinaigré et piment. Alors c'est costaud, mais c'est très bon. Et quand ils servaient des plats sur les tables des voisins, on était là en train de... déjà, on avait déjà l'eau à la bouche. Quand on voit tout ça. Si bien que, à la fin de la journée, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais totalement oublié ma sœur qui s'arrêtait. Alors c'est quelque chose, et c'est quelque chose de très important pour elle. J'avais oublié. Tout cela à cause de quoi? D'une réaction chimique. Mon environnement avait envoyé un signal au travers de mes yeux à mon cerveau qui m'avait fait naître en moi quelque chose qui s'appelle le plaisir. Le circuit de récompense était enclenché. La bonne personne, un bon plat, c'était fini, j'avais oublié quelque chose de très important. Je pense que vous le connaissez très bien, c'est le plaisir de croquer dans un carré de chocolat, d'aller courir un marathon, je sais plus pour certains que pour d'autres. C'est le plaisir d'écouter son morceau de musique préféré, c'est le plaisir quand on joue à un jeu vidéo, ou qu'on scrolle sur les réseaux sociaux, et oui, c'est vraiment bien fait. Le plaisir nous fait oublier, presque instantanément parfois, des choses très importantes. Si bien que dans notre langage, il y a des expressions qui sont rentrées, « Désolé, j'ai pas vu le temps passer » ou « Qu'est-ce qu'on s'amuse bien quand, qu'est-ce que le temps passe vite quand on s'amuse ?» ou alors « J'avais perdu la notion du temps. » Mais il n'y a pas que le plaisir qui nous fait oublier des choses importantes. Il y a aussi le déplaisir, la souffrance, le stress. Je me rappelle d'un moment de ma vie où j'étais totalement perdu, j'avais fini mes études, et la grande question, qu'est-ce que je vais faire dans mon existence, était là. Et c'était comme un filtre, je ne voyais plus rien. J'étais comme absorbé par ces soucis, par ces trous noirs. Et les choses les plus importantes de ma vie pouvaient également être oubliées. Et peut-être que vous connaissez le stress de chercher un stage, le stress de chercher un travail, la souffrance d'un corps qui est malade, ces déplaisirs peuvent attirer notre attention, comme la sonnerie d'un téléphone, ou nous faire oublier l'important. Et le plaisir et la souffrance, ces deux choses-là, c'est là qu'on passe de l'un à l'autre sans cesse, et on est un peu comme sur le wagon d'une montagne russe, on est lancé à toute allure dans la vie. On est en haut, on a du plaisir, et tout d'un coup, on est en bas, on a la souffrance. Et entre les deux, on expérimente toute la palette des émotions, et on en oublie, parfois, le plus essentiel. Comme le dit la chanson que peut-être les plus vieux ou les moins jeunes d'entre vous connaissent, le Mika Numéro, l'horloge tourne. L'horloge tourne. Au début de la chanson, ce jeune homme reçoit un SMS qui lui dit « J'ai 18 ans, et il est dans la joie, dans le plaisir de la jeunesse. » Et pour lui, ce qu'il dit, c'est que les minutes sont des rides, et lui rêve d'arrêter le temps. Et à la fin de la chanson, il a bientôt 30 ans, un SMS lui dit qu'il a bientôt 30 ans, comme moi. Et à ce moment-là, lui rêve d'arrêter le temps. Au début, il a accéléré le temps, et à la fin, il rêve d'arrêter le temps. L'horloge a tourné, il n'a rien vu passer. C'est très intéressant, cette chanson date de 2011. Et quand on relit les commentaires aujourd'hui des gens qui ont écouté cette chanson et qui ne comprenaient pas, qui disaient qu'on était jeune, actuellement ils se rendent compte, waouh, l'heure a tourné, maintenant j'arrive à la fin de la chanson, 10 ans après. Qui connaît cette chanson? Je vois quelques mains qui se lèvent. L'horloge tourne, les minutes sont des heures. Moi je rêve d'arrêter le temps. J'ai lu les commentaires de cette chanson et on voit les critiques qui disent qu'il aurait quand même pu passer un peu plus d'énergie pour créer un refrain. Le refrain de cette chanson, c'est Dan Dan Théo, oh oh, Dan Dan Théo, oh oh. Plutôt que de mettre des syllabes, il aurait quand même pu mettre quelque chose d'autre. Mais ce que je trouve assez particulier et intéressant, peut-être qu'il n'a pas fait exprès, mais quand on regarde Dan Dan Théo, en latin, ces syllabes ont un sens, qui veut dire dame, préjudice, blâme. On a de ce mot damné, damnation. Dame, dame, déo. Déo, Dieu. Le temps passe vite, l'horloge tourne, et préjudice, préjudice, Dieu. On ne pense pas à Dieu. On oublie, dans le train de la vie, les choses les plus importantes. Peut-être qu'il n'a pas fait exprès, mais en tout cas, notre monde ressemble vraiment à ça. C'est la vie telle qu'elle est. Et on oublie tout ce qui ne rentre pas dans le ici, le maintenant, les montagnes de la vie. Et avant la conclusion de ce livre, qui s'est terminé aussi vite qu'il a commencé, ça fait 2 ans qu'on a commencé l'Ecclésiaste, on arrive à la fin, le dernier chapitre, l'Ecclésiaste donne un ultime, un dernier avertissement. Avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'il ne soit trop tard, souviens-toi de Dieu. N'oublie pas le preuve le plus important. Avant qu'il ne soit trop tard. Et à qui il adresse en premier? C'est à la jeunesse. Alors je ne sais pas qui se considère jeune dans cette salle. Mais il leur dit, avant qu'il ne soit trop tard, que tu ne sois trop vieux, réjouis-toi de la vie en Dieu. Et du plaisir, vis ta vie à fond. Tu es jeune, profites-en. C'est un moment privilégié. Et ça ne va pas durer tout le temps. Voilà ce qu'il dit en disant, jeune homme et jeune femme, jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence. Vibre ton cœur à la joie durant ta jeunesse. Marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Quel meilleur moment pour s'amuser et se réjouir que la jeunesse. Avant que le mot adolescence soit repris pour qualifier une période d'âge, qui commence à peu près à la puberté, mais aujourd'hui on ne sait pas vraiment quand ça se termine, ça peut durer très longtemps. Avant ça, c'était un mot en latin qui voulait dire celui qui grandit, celui qui croit, l'adolescence. Et chez les Romains, ça qualifiait juste quelqu'un qui était dans la processus d'une croissance, et il qualifiait des hommes, jamais des femmes, entre 12 et 30 ans. Et dans l'histoire, il a même parfois qualifié des hommes jusqu'à 50 ans, pour vous dire. Mais c'est l'idée de grandir. Et c'est ça la jeunesse. C'est la période de sa vie où les molécules se multiplient, où notre corps se développe, et à partir d'un certain âge, la décroissance commence. Et ces moments où le corps est encore dans la force de l'âge, dans toute sa vigueur, c'est le meilleur moment pour s'amuser. Si on le qualifie comme une saison, c'est le printemps.
Il fait beau, les oiseaux chantent, on profite.
C'est la jeunesse. Et saviez-vous que lors de la jeunesse, pendant cette phase-là, justement, les récepteurs de dopamine, qui sont l'hormone du plaisir, étaient même plus nombreux chez les hommes. D'autant plus d'occasions de se réjouir et de savourer tous les plaisirs que la vie a à nous offrir.
Physiquement, on est libre, et dans notre esprit, on est libre aussi. Il n'y a pas le souci de rendre des comptes à son patron, pas de paperasse administrative, de déclaration d'impôts à faire, pas de couches à changer, de biberons à remplir. Très peu de responsabilités. Réjouis-toi pendant cette période. Et ce qui est frappant, c'est que Dieu nous a créés à la base pour ça. Nous n'étions pas censés vieillir pour la joie, pour le plaisir. Et l'Ecclésiaste dit, mais réjouis-toi tant qu'il est encore temps, avant qu'il ne soit trop tard. Et nous avons lu, nous avons chanté à quel point la création de Dieu est merveilleuse. Et alors que je lisais ces chants, que je chantais ces chants, les souvenirs des plaisirs de la vie que j'avais connus dans la nature sont revenus à moi. La joie de courir dans la nature et de voir un lapin sortir du buisson et de pouvoir courir après lui. La semaine dernière, on avait passé une nuit à la belle étoile. De pouvoir contempler la beauté des étoiles. Ou encore de regarder un simple coucher de soleil. On a l'impression de parler de banalité, parce que dans notre monde, on les a oubliées. Mais ces choses, à la base, sont tellement belles. Quand est-ce la dernière fois que nous sommes sortis de chez nous et du monde à deux dimensions pour admirer ces choses dans la vraie vie et prendre plaisir des choses que Dieu nous a données? Dieu veut que tu te réjouisses, réjouis-toi tant qu'il est encore temps. Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Avant qu'il ne soit trop tard, réjouis-toi, mais souviens-toi d'une chose, Dieu jugera chacune de tes actions. Toutes. Ce n'est pas un encouragement à faire n'importe quoi, à brûler la corde par les deux bouts, à se laisser aller à tous les plaisirs. Ce n'est pas à rechercher le plaisir sans aucune limite. Cela existe et cela existe depuis longtemps. L'idée de chercher le plaisir pour le plaisir, c'est juste aussi vieux que le monde. Est-ce que nous cherchons le plaisir pour le plaisir? Est-ce que ce qui nous donne du bien, ce qui nous fait du bien, ce qui me donne du plaisir et ce qui est qualifié comme bien, on connaît l'expression, si cela est bon pour toi, si cela te fait du bien, c'est que c'est une bonne chose. Cette philosophie est vieille comme le monde, ça s'appelle l'hédonisme. Et on en a vu des images, on en voit des images dans les films qu'on regarde, Hollywood, où on voit des scènes d'orgies les plus décadentes possibles à n'en plus finir. C'est le dicton qui nous vient du latin, cueille le jour, profite de la vie, ne pense pas à demain, cueille le jour, carpe diem. C'est pas à ça que nous appelle l'Ecclésiaste. On pourrait avoir cette impression. Ce n'est pas, ne pense pas juste à aujourd'hui, et ne pense pas à demain, ne pense pas à après, ne pense pas à ce qui va venir. Ce n'est pas juste à vivre une vie dame, dame, déo, où on fait un point vers le ciel à Dieu. L'Ecclésiaste ne nous invite pas à vivre une vie dame, dame, déo, mais une vie coram déo. Coram déo, c'est une expression qui signifie vivre dans la présence de Dieu, vivre sous la face de Dieu, sous le regard de Dieu. Cette expression que nous avons héritée des réformateurs signifie que toute ta vie entière est vécue dans la présence de Dieu, sous l'autorité de Dieu et pour la gloire de Dieu. Chaque jour, pendant son sommeil, pendant son réveil, du matin au soir, vivre coram deo, c'est vivre une vie intègre devant Dieu. Se savoir que, en cet instant, il n'y a pas une seule chose que le regard perçant de Dieu ne peut pas avoir. Qu'en cet instant, Dieu est là, qu'il te regarde, qu'il te voit. Que quand tu vas rentrer chez toi dans la voiture, Dieu va te voir. Que ce que tu vas faire cet après-midi, Dieu va le voir. Vivre une vie coram deo, devant la face de Dieu, et agir en conséquence. Réjouis-toi dans ta jeunesse, oui, profite, mais pas dame, dame, deo, mais coram deo, devant Dieu, conscient qu'il te voit à chaque instant. Car pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Alors, oui, dans ta jeunesse, fais ce qui te plaît, suis les regards de tes yeux, en sachant que Dieu te voit. Et ne sois pas attiré par ces plaisirs qui vont te dépouiller, qui vont te priver de la vraie joie en Dieu, pour d'autres plaisirs. Le plaisir que Dieu t'offre est le plus absolu, et le plus beau, et le plus complet, celui qui est libre de toute culpabilité. Si tu as des plaisirs qui sont souillés, qui sont mauvais, Dieu le voit, et Dieu jugera. Et ainsi, alors même que tu le fais aujourd'hui, tu sais que derrière ce plaisir qui est là, il y a la conséquence qui vient derrière. Ce plaisir est comme mitigé, il est moitié-moitié. Alors que le plaisir qui est vécu dans l'intégrité, dans la justice, est plein, il est entier. Il est libre de toute ombre de doute, de questionnement, de culpabilité. C'est un vrai plaisir. Cueille le jour, vis ta vie aujourd'hui sous le regard de Dieu. Et vis ta vie à fond. C'est ce qu'il nous dit, chasse le chagrin de ton cœur. Éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et la jeunesse partent en fumée. Cette saison ne va pas durer. Cette saison où on peut vivre sa vie à Dieu, sa vie à fond pour Dieu dans le plaisir, est courte. J'ai eu au téléphone la semaine dernière Claude, mon oncle Claude, qui a 81 ans. Et je lui demande, comment vas-tu Claude? Il me dit, ça va très bien, on vit la vie à fond, on sert le Seigneur à fond, mais dans la tête tout va bien, mais tu sais, le corps, je suis bloqué, j'avance pas, je suis essoufflé, j'arrive pas à me lever. Mon oncle Claude était un pasteur, alors il a 80 ans, mais il continue de faire des kilomètres et des kilomètres pour aller dépanner les églises qui sont sans pasteur. Et il dit, mon corps est totalement bloqué, limité. Aujourd'hui, vis ta vie à fond. Ta jeunesse au service de Dieu, c'est le plus grand plaisir que tu peux avoir aujourd'hui. Chaque jour. Ne te dis pas, demain, je profiterai de ce que Dieu me donne. Demain, je servirai le Seigneur. Ne dis pas demain. Ne dis pas que tu profiteras des rayons du soleil pendant l'hiver ou pendant l'été, pendant le printemps, pendant l'automne ou l'hiver. Je vais y arriver. Le soleil ne brille que pendant l'été. Profite de la saison dans laquelle tu es pour l'offrir en entier à Dieu. Maintenant, pas demain. Parce que le vent va tourner. L'automne et l'hiver vont arriver. À un moment donné, les nuages vont arriver, la pluie va tomber, et toutes ces occasions où le plaisir domine, qu'est la jeunesse, ne sera plus là. Souviens-toi de ton Créateur pendant ta jeunesse. C'est le premier verset du chapitre 12. Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras « Je n'y prends aucun plaisir ». Et c'est le deuxième avertissement d'Ecclésiaste. Si le premier c'était « Jeune, avant qu'il ne soit trop tard, réjouis-toi en Dieu, devant Dieu, Coram Deo ». Le deuxième c'est « Jeune et être humain, avant qu'il ne soit trop tard, souviens-toi de ton Créateur, souviens-toi de celui qui t'a créé, avant que la créature que tu es soit défaite, ne soit plus ». Avec l'AVS, on se fait de plus en plus de soucis. Ce sont les années où on dit « je n'y prends plus aucun plaisir ». Et peut-être que les plus avancés dans l'âge, aujourd'hui, peuvent nous le dire et peuvent nous le confirmer. Ils pourront vous le confirmer après. J'ai vécu pendant 2 ans avec une personne âgée, je vous en ai déjà parlé, Alain. Et aujourd'hui, il m'a encore appelé la semaine dernière. Il se fait des soucis pour un rien, pour un tout et un rien. C'est vraiment... Toute la journée, il pense aux choses qu'il doit régler, il pense à ses propriétés, il pense à ce qu'il a besoin de gérer, à comment il va faire la transition, il pense à sa santé. Toute sa vie, les soucis tournent en boucle dans sa tête. Il n'arrive pas à s'en sortir. Et on rentre dans la deuxième phase, où ce sont les soucis qui nous font oublier le plus important. C'est la période où on dit « je n'y prends plus aucun plaisir ». La mamie de Chloé, qui s'appelle Linda, nous a dit récemment, j'ai envie de repartir. J'ai envie de retourner avec le Seigneur. Elle est atteinte d'une maladie qui fait tellement mal à ses muscles qu'elle ne prend plus aucun plaisir à la vie. Chaque minute, pas de plaisir. Chaque minute est souffrance. Et là, c'est ça qui fait la maladie. Et la vieillesse peut aussi nous faire oublier les choses essentielles. C'est pourquoi il a dit, souviens-toi de ton Créateur avant qu'il ne soit trop tard. Et nous avons dans ces lignes le vocabulaire de la décréation. Nous lisons, c'est le moment où le soleil et la lumière, la lune et les étoiles s'obscurcissent, là où les nuages reviennent juste après la pluie. Ce qui avait été créé, Dieu qui a créé la lumière, est en train de se décréer. Là où la créature oublie son créateur, un peu comme la créature de Frankenstein s'est rebellée contre le docteur, les hommes ont rebellé, les yeux sont rebellés contre Dieu, et le créateur ultime, ton créateur, celui qui t'a créé, qui a créé ton corps, retire la création. Il décrée ce qu'il a créé. C'est exactement ce qui s'est passé en jugement contre le pharaon d'Égypte pour libérer son peuple. Le ciel s'est obscurci, la nature s'est défaite. La colère de Dieu s'est manifestée et ce qui avait été créé s'est décréé. Et c'est ce qui arrivera lorsque Dieu reviendra et que sa colère sera pleinement manifestée. C'est ce que Jésus annonce. L'Apocalypse, il y aura un grand chambardement cosmique. Les étoiles tomberont. Le ciel s'obscurcira. La décréation. Et c'est ce qui est annoncé dans ces premières lignes. Et qu'est-ce que la vieillesse, si ce n'est la décréation de notre corps ? Notre corps qui était censé vivre jeune éternellement, tombe en poussière, tombe en lambeaux. Alors avant qu'il ne soit trop tard et que la vieillesse te prive de plaisir, réfléchis et souviens-toi de Dieu. Nous lisons cette métaphore de la vieillesse. C'est l'époque où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent. Lorsque Alain est devenu vieux, il commençait à trembler de partout. Et il, selon l'expression française, il sucrait les fraises. Et peur de tituber, de tomber, les jambes tremblent. Ou celles qui broient interrompent leurs tâches parce qu'elles sont trop peu nombreuses. Les dents aussi tombent les unes après les autres, celles qui broient, et l'on ne prend plus plaisir au bon plat qu'on aimait avant. Ou ceux qui regardent par les fenêtres s'obscurcissent. Ma grand-mère qui aimait faire des puzzles, regarder les petites choses, qui aimait faire des sudoku, est atteinte de DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge. Autrement dit, elle est en train de devenir aveugle. Et aujourd'hui, elle ne peut plus faire tout ce qu'elle aimait faire avant. Elle ne connaît rien aux écrans. Tout ce qu'elle peut faire, c'est rester chez elle. Elle ne peut même plus faire les petits plaisirs qu'elle avait avant. Les yeux perdent leur vue. Celles qui regardent par les fenêtres s'obscurcissent. C'est l'époque où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, tandis que le bruit de la meule diminue. On n'entend plus rien. Où l'on se lève au chant de l'oiseau. Où toutes les chanteuses s'affaiblissent. Alain se plaignait tout le temps qu'il n'arrivait plus à chanter comme il le pouvait avant. C'était un grand chanteur et maintenant il avait la voix tout enrouée. Les chanteuses s'affaiblissent. C'est l'époque où l'on redoute ce qui est haut. Où l'on a la terreur des chemins. Il ne pouvait plus sortir seul. Toujours avec... Maintenant il a un déambulateur. Mais après être tombé une ou deux fois, il voulait pas mettre la pied dehors. Même chez lui, il avait peur de tomber. Il allait d'une pièce à l'autre avec sa canne. J'ai vu la dégringolade. Où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient lourde, où la capre n'a plus d'effet. Capre qui permettait d'enrichir, encourager les désirs sexuels. À ce niveau-là aussi, le plaisir disparaît. Car l'homme s'en va vers son habitation éternelle et les pleureurs parcourent les rues. La mécanique est en train de tomber en peine. La mécanique tombe en rade jusqu'à s'arrêter. Si tu étais une horloge ou un mécanisme, je peux te dire que tu es à un certain degré, à un certain niveau, d'arriver à l'obsolescence programmée. Bientôt, la fin va être là. Le mécanisme est voué à s'arrêter. Et ce mécanisme en panne est certainement l'un des meilleurs professeurs que nous pouvons avoir. Nous dépérissons, nous commençons à mal fonctionner et cela nous pousse à la réflexion. Je suis un être créé, une créature, et si la machine tombe en panne, il faut aller voir le réparateur. Qui est mon réparateur ? Qui est mon créateur ? Avant qu'il ne soit trop tard, réfléchis. Si la machine tombe en panne, c'est que Dieu ne la soutient plus, c'est qu'elle n'est plus connectée à la source de vie, à ce qui l'alimentait, parce que le péché nous en a séparés. Avant qu'il ne soit trop tard, réfléchis. Avant l'arrêt définitif, réfléchis. Souviens-toi de Dieu. Souviens-toi de ton Créateur avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or ne se brise, que la cruche ne se casse à la source et que la pouline tombe rompue dans le puits. Avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit ne retourne à Dieu, celui qui l'a donné. Quand la machine s'arrête, que le cordon d'argent qui retenait ta vie, attaché à ton corps, se coupe, et que la cruche qui retient ton âme se casse, ton esprit va vers ton Créateur, et ton corps retourne à la poussière. La poussière que lui, à laquelle il avait donné vie par son souffle, à la création. Le souffle qu'il donne, quand il t'a tissé dans le ventre de ta maman, il y a une trentaine, vingtaine, cinquantaine d'années, alors que tu étais tissé, il a donné ce souffle de vie qu'on appelle l'âme, et elle va retourner à son Créateur. Avant que cela n'arrive, réfléchis et souviens-toi de Dieu. Parce que quand ton âme sera séparée de ton corps et qu'elle sera face à ton juge et ton créateur, que lui diras-tu ? Te seras-tu souvenu de lui avant qu'il soit temps ? Alors souviens-toi de ton créateur avant qu'il soit trop tard. Souviens-toi de lui aujourd'hui. Il conclut tout son déroulé, toute sa prédication par ce verset 8, comble de l'inconsistance des Ecclésiastes. Tout n'est que fumée. Ta vie n'est que fumée. En un instant, ce sera fini. Alors souviens-toi de ton Créateur. Lorsqu'un homme qui a passé toute sa vie sans se rappeler, sans penser à Dieu, peu importe son âge, lorsqu'un homme est repris, que la cruche se casse et qu'il revient au Seigneur, il ne pourra pas faire demi-tour. Mais si avant, durant sa vie, il se rappelle de lui, s'il décide de ne plus vivre une vie d'âme d'âme Deo pour vivre une vie devant la face de Dieu, une vie corem Deo, c'est ce qu'on appelle faire un demi-tour à 180 degrés. C'est ce qu'on appelle une conversion. Avant qu'il ne soit trop tard, fais demi-tour à 180 degrés. Convertis-toi. Vis une vie corem Deo. Souviens-toi de Dieu, de ton Créateur. Et vous savez, pour ceux qui ont fait ces 180 degrés, parce que la vie va à toute allure et que nos émotions sont si fortes, les plaisirs et les déplaisirs, qu'on est rapide à oublier. Quand est-ce la dernière fois que tu as passé ta journée à te souvenir de Dieu ? On a besoin de conversion, de faire des demi-tours dans nos pensées à 180 degrés tout au long de la journée, sans cesse, tout au long de nos semaines, tout au long de notre vie. Quand est-ce la dernière fois que tu as vraiment décidé à nouveau de vivre une vie sous le regard de Dieu, devant la face de Dieu, où tu sais que toutes tes actions, il les voit, il les connaît. Avant qu'il ne soit trop tard, même si tu te dis « Oui, c'est bon, j'ai fait ce 180 degrés, je me suis fait baptiser, j'ai donné ma vie à Dieu. » Avant qu'il ne soit trop tard, je t'encourage. On peut si facilement se perdre et oublier. Et oublier ce qu'il y a de plus important. Avant qu'il ne soit trop tard. Chrétien, chrétienne, frère, sœur, je t'en supplie. Vis ta vie à fond pour le Seigneur tant qu'il est encore temps. Souviens-toi de ton Créateur. Ne vis pas à moitié. Ne sois pas tiède. Dans Timothée, il est dit que les chrétiens, dans les derniers temps, certains renieront ce qui en fait la force. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils renieront ce qui en fait la force. Ils seront amis des plaisirs plutôt que de Dieu. Je t'en supplie. Vis ta vie à fond avant qu'il ne soit trop tard. Chaque jour, chaque moment, chaque heure, chaque action, chaque décision, chaque pensée, chaque parole, devant son regard, avant qu'il ne soit trop tard. Un puritain avait pour décision, il voulait, c'était son but, d'arriver à passer une journée entière à ne penser qu'au Seigneur. Et c'était le but de sa vie. Et chaque jour était un échec, parce qu'à chaque fois, il y avait un moment donné où il commençait à penser à lui-même. Les puritains avaient cette façon de parler, ils disaient « Pour chaque regard qui est centré vers moi-même, sur moi-même, je veux en avoir 20 qui soient tournés vers Dieu. » Combien de nos pensées dans la journée vraiment sont orientées vers Dieu ? Souviens-toi de ton Créateur avant qu'il ne soit trop tard. Dieu avait donné aux Hébreux cette manière très pratique de se souvenir de lui, avoir des franges, et à chaque fois qu'il bougeait, les franges leur rappelaient à s'en souvenir. Peut-être pouvons-nous mettre en place aujourd'hui des franges spirituelles, des choses qui nous permettent de penser à Dieu. Est-ce que le fait de prier avant le repas n'est déjà pas une certaine forme de frange qui nous permet de nous souvenir de Dieu avant de manger ? Mais peut-être que nous pouvons multiplier cela. Avant d'ouvrir mon ordinateur et me mettre à travailler, ne puisse pas tourner mes regards vers le Seigneur. Créer des franges, des habitudes qui me permettent de penser à Dieu, de tourner mes regards vers lui plus souvent et de vivre et de me rappeler que je vis sous le regard de Dieu. Prendre un temps le matin, prendre un temps le soir, prendre un temps le midi, prendre un temps au goûter, prendre un temps à la pause du goûter du midi, prendre un temps avant de commencer une discussion. Combien de franges est-ce que nous pouvons mettre ? Et je me le redis à moi-même, combien de fois j'ai oublié parce que j'étais trop accaparé, absorbé par le plaisir du soir. Le soir, c'est tellement facile. On se met devant quelque chose. une série, un film, on est dans une bonne discussion, on est devant quelque chose qui nous fait du bien. Et le temps passe, et le temps passe, et l'horloge tourne. On se couche tard, et on a déjà perdu la bataille. Le lendemain, pouvons-nous passer un temps avec le Seigneur ? À cause du plaisir de la veille, on a déjà perdu la bataille du lendemain matin. Souvenons-nous de Dieu. Soyons fermes. Ne soyons pas amis des plaisirs plutôt que de lui. Avant qu'il ne soit trop tard, jeune homme, réjouis-toi en Dieu. Avant qu'il ne soit trop tard, souviens-toi de ton Créateur. Et troisièmement, avant qu'il ne soit trop tard, écoute la voix de la sagesse. Peut-être que tout ce que je viens de dire jusqu'ici ne te convient pas. Tu préfères vivre la vie totalement et le vrai, le carpe diem à l'ancien temps, c'est-à-dire sans le regard de Dieu. Dame, dame, Deo, ça te convient très bien. Et comme l'a dit l'Ecclésiaste plutôt dans son livre, Dieu a fait les êtres humains droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup de détours. Et peut-être que cette simple vérité que l'Ecclésiaste t'a présentée pendant toutes ces semaines ne te convient pas et que tu préférais trouver une autre vérité, une autre réalité, une autre philosophie de vie. L'Ecclésiaste termine sur ces paroles. Ce que je vous ai écrit est vrai, droit, sincère, c'est la vérité, n'allez pas chercher ailleurs. Verset 10, l'Ecclésiaste n'a pas seulement été un sage, il a aussi enseigné la connaissance au peuple et il a examiné, recherché, mis en ordre un grand nombre de proverbes. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, mis en ordre un grand nombre de proverbes et des écrits pleins de droiture et des paroles vraies. Ces écrits sont la vérité, droite et vraie. Elle a été inspirée de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Qui te connaît le mieux ? Ce n'est pas ta maman. Celui qui te connaît le mieux, c'est ton Créateur, celui qui t'a fait. Il connaît le mieux toutes les fibres de ton être. Il connaît la vérité, et cette parole est la vérité. Plein de droiture et de vérité. Ne va pas chercher ailleurs. Verset 12, les paroles des sages sont comme des aiguillons. Et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés. Elles sont données par un seul berger. Dieu est l'ultime sage qui a inspiré tous les sages qui ont écrit ces livres, qui sont regroupés comme des aiguillons dans cette parole. L'Ecclésiaste, un livre sur 66. Il y en a 65 autres, tous des sages, inspirés par un seul sage, le sage ultime. Et c'est le bon berger. Il y a à la fois le sage, le créateur, le bon berger, celui qui nourrit ses brebis. Si tu viens ici, tu n'auras pas plus faim. Pas besoin d'aller manger à un autre racoloir, aller manger à une autre mangeoire, aller chercher un autre berger, aller chercher une autre idée, notre philosophie. Oui, bien sûr, on dit oui de la tête. Mais qu'est-ce que tu lis la plupart du temps ? Qu'est-ce que tu regardes ? À quel ecclésiaste es-tu en train d'écouter ? À quelle table de quel ecclésiaste es-tu en train de t'asseoir et d'écouter les paroles ? Qu'est-ce qui rentre le plus dans tes oreilles ? Qu'est-ce qui façonne ta façon de voir le monde ? Nous pouvons dire oui sur le principe et en réalité aller voir à gauche et à droite de nombreuses autres philosophies. Mais la seule vraie nourriture du vrai bon berger est là. Pas besoin de chercher et de nombreux détours, comme nous y avons si souvent tendance. Le bon berger te donne toute la nourriture dont tu as besoin. Il te conduit vers ces verts pâturages où il y a un vrai repos. Il est le sage, le berger, le créateur. Et quand tout sera fini, il est le juge. Oui. Ta vie ici n'est que fumée, mais tout ce qui se passe ici et maintenant compte pour l'éternité. Et le juge portera un jugement sur chaque action. Alors ne va pas chercher ailleurs. La sagesse est là. Attention mon fils, à ce qui pourrait y être ajouté. On n'en finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études fatiguent le corps. Avant de gaspiller ton temps à aller chercher ailleurs, viens ici. Avant qu'il ne soit trop tard, va à la vraie source de sagesse. Un seul berger, une seule sagesse. Et les aiguilles qui sont contenues dans ce livre, ces clous, sont comme des clous qui vont venir pointer du doigt là ce qui ne va pas dans ta vie, ce qui est bancal, pour la remettre droit. Afin qu'à la fin, quand Dieu jugera, tu pourras goûter au plaisir de sa joie, pleinement et totalement. Concluons. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est cassé, que ce soit bon ou mauvais. Avant qu'il ne soit trop tard, ne vis pas une vie dam dam deo, mais une vie coram deo, une vie devant la face de Dieu. Dans ta jeunesse, réjouis-toi, vis ta vie à fond, sous son regard, cherche à jouer devant lui comme la sagesse à la création et à faire son plaisir. Avant d'être absorbé par les douleurs de la vieillesse, que ton organisme ralentisse et finalement s'arrête, souviens-toi de ton Créateur et juge. Avant qu'il ne soit trop tard, ne va pas chercher d'autres vérités, à d'autres rateloirs. Écoute la sagesse ancienne de l'Ecclésiaste. Il n'a rien de caché. Il voit tout, il connaît tout, il entend tout. Ce que tu vis, ici et maintenant, devant la face de Dieu, compte pour l'éternité. Avant qu'il ne soit trop tard, souviens-toi de Dieu. Seigneur, notre Dieu, tu es notre Créateur, tu es mon Créateur, tu es mon juge, tu es mon berger, tu es le sage. Seigneur, je t'en supplie, permets-moi d'être sage, permets-nous d'être sages, de te craindre et de respecter tes commandements avant qu'il ne soit trop tard, et de vivre chaque jour, à chaque instant, sous ton regard, conscient que tu me vois, nous vois, dans une vie intègre, de racheter le temps. Seigneur, que ton Église vive pour toi, brûlant du désir de vivre pour toi, devant toi, pleinement et totalement, pas à moitié. Mon Dieu, fais ta volonté, que ton esprit agisse par ta puissance. Toi seul peux le faire. Dans le nom de Jésus. Amen.